il y a une opinion publique mondiale qui admet, peu importe ce que fait Israël, c'est pas grave, c'est à eux. Dès 67, vous avez remarqué, l'opinion mondiale s'est inversée. Pourquoi? Parce que jusqu'à 67, on avait affaire avec les Anglais. À partir de 67, ce qu'on appelle les Shtahim sont occupés par Ishmael. Et on a affaire avec Ishmael, et c'est d'autant plus difficile. Voilà, vous avez compris le problème? Et ça, on verra déjà dans le Zohar. C'est rare? À part de ça, pas de nouveau. Uniquement, c'est la première fois. On n'a jamais eu affaire. En 1917, les Juifs étaient sous souveraineté turque. Oui. Et l'État d'Israël a été fondé en 1948. Okay. C'est-à-dire qu'on n'a pris aucun territoire à aucune puissance musulmane. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, les Shtachim ne sont pas reconnus par la communauté internationale comme appartenant à une puissance musulmane quelconque, juste la Jordanie. Il n'y a que l'Angleterre et le Pakistan qui ont reconnu l'occupation de la Cisjordanie par la Jordanie. C'est le Shetah Hefker, c'est Eretz Israël des Turcs qu'on ne sait pas encore à qui donner. C'est les Juifs qui, depuis 67, ont affaire aux Arabes. Mais nous n'avons jamais eu affaire aux Arabes pour Eretz Israël. Je ne sais pas si c'est clair. Ça a été repris des Anglais. Et les Anglais n'étaient là que pour nous la donner. Ça veut dire qu'il y a la fameuse déclaration Balfour. Et ils devaient nous donner toute la Palestine, c'est-à-dire y compris la Jordanie. On a du travail sur la planche, comme vous voyez. Mais les chancelleries internationales seraient très naïves de croire que c'est si simple que ça. Et je parle trop rapidement d'un problème très vaste, mais ce qu'il y a d'évident, c'est qu'à partir de 67 se dévoile cette difficulté parce qu'il s'agit d'Ishmaël et plus de Esaü. Voilà, vous avez compris? Non. Or, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a en tout cas, parce que le Zohar va nous dire, c'est par le mérite de la Brit Mila dans une relation avec Israël. Tout ça, c'est dans l'histoire d'Abraham. On ne peut pas ne pas remarquer qu'une des rares mitzvot que tous les Juifs d'Israël pratiquent, c'est la Brit Mila. Je vais raconter une anecdote que j'ai vécue. C'était le moment de l'affaire Shalit. Vous vous rappelez ce que c'est cette affaire Shalit? C'est-à-dire un juif israélien qui est finalement descendu du pays. Il s'est marié avec une scandinave, et qui finalement, le chalet en question, c'était une capitaine, qui a prédoué un problème psychologique, a quitté le pays. Et à ce moment-là, il y a eu des manifestations dans le pays. Je me souviens que le Rav Neria, vous avez entendu parler du Rav Neria, avait été invité à l'université devant tous les étudiants pour parler de cette question. Il avait commencé, c'était plein d'étudiants, dans une grande majorité pas d'Atihim, Machomer, Tahir, tout ce que vous voulez, il avait commencé par dire ceci, dans un très bel hébreu, c'était très impressionnant. Je vous comprends pas, mais on verse dans ce pays tous les jours du sang juif innocent et vous ne réagissez pas. Et vous réagissez pour des histoires de Théodat Zéhout. Ah, personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Dit oui, tous les jours, on circoncit vos enfants. On verse son juif innocent. Et vous ne réagissez pas. Un silence là, ça. Il y en a qui disent, on n'est pas des bâtards, vous voulez qu'on ne circoncie pas les enfants? Bien, tu vois. Vous avez compris ce que vous avez dit? Cria la petite. Okay. Ça veut dire que la séance est arrêtée, là, elle est pas trop. Et ils sont mis à réfléchir. Et dire, ah, on n'ira pas jusque-là, quand même. Oui, ça paraît assez mystérieux. Ils ne pratiquent rien. La circoncision ne touchait pas. Hein? Vous voyez comment ça travaille dans les profonds de l'identité Israël. Or, en fin de compte, comme nous verrons ce texte, je vais le reprendre en détail, c'est que, de même que la pratique de la circoncision n'est pas la même chez Ishmaël que chez Yitzhak, de même les droits à Eretz Israël ne sont pas les mêmes chez Ishmaël que chez Yitzhak. Et le Zohar dit très clairement que le droit à Ishmaël sur Eretz Israël
n'est fondé que quand Israël n'est pas là. C'est-à-dire, quand Israël n'est pas là, c'est à Ishmaël que ça appartient. Mais quand Israël est là, alors se déclenchent tous les conflits que le Zohar va décrire, d'ailleurs, tout à l'heure ou la semaine prochaine. Il y a un peu de patience. Et alors, il en résulte une règle, qui est que ce pays, l'équation, c'est très clair. Ou un juif ou un arabe. Comment ? Ça veut dire, là où il n'y a pas un juif, il y a un arabe. Vous avez compris le problème ? Ça commence avec Ishmaël et Yitzhak. Alors, vous voyez pourquoi c'était important de peubler de juifs les territoires d'Eretz Israël où il n'y avait pas de juifs.
Okay. Donc, ça veut dire que quand
vous étiez pour nous
à
couper les Arabes,
les chrétiens.
Pardon, pas plus.
Moi, je suis chez l'âme. Je suis chez l'âme. Moi, je suis chez l'âme. Il est là pour les musulmans. Quand on est très bien, il est là pour les musulmans. Donc, les
échelons, ils זה מסביר למה הם לא יחזיקו מעמד נגד המוסלמים. זה סלאח א-דין. Alors, ce qui est le plus étonnant, et on sait pas de quoi le plus étonné, que le Zohar nous a déjà écrit tout ça, ou que l'histoire fait exactement ce que le Zohar dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, on ne sait pas laquelle des deux choses les plus extraordinaires. Okay. Enfin, c'est la même chose. Alors on arrive donc au chapitre 16. C'est que, et je vous garantis que l'état-major israélien n'avait pas lu le Zohar. D'abord, j'en sais rien. Mais je crois que le Zohar n'avait pas lu les comptes rendus de l'état-major israélien. Bon, en tout cas, pour revenir à notre question, c'est que, au commencement du chapitre 16, Abraham a déjà foi que c'est de lui que viendra la descendance. Et voilà ce qui se passe. Et Sarai est chez Abraham, et voici que Sarai, femme d'Abraham, loyale d'Alou, ne lui enfantait pas, ne lui a pas enfanté. Vela, Shifra Mitzri, Tushma Agar. Et elle avait une servante égyptienne, et son nom était Agar. Le Midrash nous dit que cette servante était la fille du pharaon. Retenez bien cela. Lorsque Abraham et Sarah sont revenus, avec Lot d'ailleurs, de leur voyage précédent en Égypte, le pharaon a comblé Abraham et Sarah de cadeaux, on réétudiera cet épisode, et entre autres cadeaux, il lui a donné sa propre fille comme servante. Bon. Va tomer Sarah et Abraham, et Sarah dit à Abraham, « Inena atzarani Hashem iledet, voici que Dieu m'a empêché d'enfanter, bona et shifrati, prends ma servante, ulai ibbane mimena. » Peut-être je me construirai à partir d'elle. C'est-à-dire, je construirai ma maison d'elle. Ça veut dire, en clair, moi je ne peux pas, eh bien c'est dommage que la promesse que Dieu t'a faite à toi ne s'accomplisse pas. Prends ma servante, elle aura un enfant, je l'adopterai. C'est clair ? Vaishma Abraham l'école Sarai. Et Abraham a écouté la voix de Sarai. C'est là que ça éclate. Qu'est-ce que Sarah dit à Abraham ? Bon, Dieu t'a promis un enfant, mais moi je ne peux pas. Eh bien, prends l'Égyptienne et Abraham accepte. Voilà, ça c'est le drame qui éclate. C'est de là qu'Ishmaël va naître. Bon, alors comment expliquer ça? Je vais me donner deux minutes de absaquette, réfléchissez, enfin répondez. Comment vous expliquez ça? Comment Abraham peut se permettre d'accepter cette proposition malhonnête de Sarai, si j'ose dire? Alors, vous entendez ce qui se passe. Dans le verset précédent, Dieu finit par convaincre Abraham que c'est de lui que viendra la descendance, pas d'Eliezer. C'est une autre lignée, je ne voudrais pas en parler maintenant. Et finalement, Vehemin Bashem, Abraham a cru, là, il a admis, et Abraham est prévenu que sa descendance va avoir des histoires, parce qu'ils auront des doutes. J'essaie d'en parler un peu tout à l'heure. Et puis voilà, que tranquillement, Sarah lui dit, moi je peux pas. Alors prends Agar. Alors que le projet de Dieu pour l'avenir de l'humanité passe par l'identité hébraïque d'Abraham, quelle mère il va donner à son fils, une égyptienne. Donc ça va passer par une autre société. Vous savez que d'après la loi d'Israël, il y a le fils et le fils de la mère. Alors, mais ce qui se passe là, il y a un optimisme de Sarah qui est colossal. Je l'adopterai, j'en ferai un juif. Ça n'a pas marché. Et tout de suite, on va nous raconter la réaction d'ingratitude de Hagar et cette catastrophe qui se développe, Ishmaël d'un côté, Israël, parce qu'entre-temps, Isaac va quand même naître. Mais entre-temps, Ismaël est là. Voilà, vous avez compris le drame. Alors, qui pourrait expliquer ce qui s'est passé pour Sarai et pour Abraham au niveau de ce verset? Vous avez compris la question? Et j'essaie d'expliquer comment nous vivons ces dimensions du drame.
Dans le verset, Sarai est un grand de l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas enfanté. Abraham est sûr de la promesse.
Oui.
Donc il sait qu'il doit enfanter quoi qu'il arrive.
Oui.
On est d'accord. Et
donc il saute sur l'occasion, si j'ai dit.
Il saute sur l'occasion, c'est vrai. Peut-être que de même qu'il a fait des armes à Okadine qui était sorti avec lui, je pense que Agar, qui a dû habiter avec lui, il l'a peut-être fait aussi en quelque sorte.
Il a fait. Regardez, le verset dit Shifra Mitzrit. Bon, et puis, j'ai fait allusion tout à l'heure en disant que le projet de Dieu par rapport à cette descendance qui sera bracha pour l'humanité entière passe par l'identité hébraïque d'Abraham. Vous vous rappelez ? Donc, et alors, il y a ici un fléchissement de la foi, de la confiance, de la foi chez Sarah, qui double ce qui était déjà dépassé chez Abraham. Et il y a deux difficultés. Le fléchissement de la confiance chez Sarah, et d'autre part, l'acceptation d'Abraham de ce changement de programme. Ça veut dire, semble-t-il, il y a un effondrement de la foi qui était déjà là, de la foi dans le sens hébreu. Avoir confiance que la promesse s'accomplisse. Allez, ces difficultés d'Abraham, d'arriver à intégrer cela, moi, fin d'histoire, stérile, plus aucun avenir, c'est moi qui en pense ça, de toi viendra la fécondité. En fin de compte, il a intégré. Et par conséquent, lorsque Sarah lui dit, ça vient pas chez moi, Abraham, on ne refait pas l'histoire à l'envers, tiens, Abraham pouvait très bien lui dire, patience, tu vois bien que Dieu veut que ce soit comme ça. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, j'en parle un peu abondamment de tout cela pour essayer de vous faire comprendre à quel point nous vivons cela. Je vous donner une illustration. Mais d'abord, une définition plus complète. Il y a chez Sarah une attitude qui est à la fois faite de renoncement et de générosité totale. Tout se passe vis-à-vis de Agar. Tout se passe comme si elle dit à Abraham, moi je ne peux pas. Mais c'est dommage que toi, tu ne restes pas dans l'histoire, puisque c'est toi que la promesse concerne, et bien voilà, essaye avec Agar. Mais nous avons là deux sociétés différentes comme matrice des engendrements. Sarai, qui est Eshet Abraham, de l'identité d'Abraham, la société hébraïque, et puis Agar, qui est la société égyptienne. Et nous voyons très bien qu'Abraham a réussi. À travers Sarah, il engendre Israël, en fin de compte. À travers Agar, il engendre l'islam. C'est clair, okay. Il est encore Abraham. Oh. Et c'est de faire basculer le projet de cette histoire des Hébreux aux Égyptiens. C'est ça que Sarah propose et Abraham accepte. Regardez par analogie inversée comment, avec Moïse, on a l'option inverse. Moïse aurait pu décider de faire passer l'avenir de l'histoire par l'Égypte en tant que fils adopté du Pharaon. Mais il a décidé de le faire passer par Israël. Et il rompt avec l'Égypte et il rejoint Israël, dans l'histoire de Moïse. C'est au début de ce livre. Il choisit ses frères chez les Hébreux. Abraham, à ce niveau, choisit sa femme chez les Égyptiens. Bon.
Et moi, je suis aussi pas en doute à un moment justement, la descendance, enfin, que la suite passe par Israël, quand il est chez les Égyptiens.
Oui.
Le même doute que vous
avez. Oui. Tu as déjà étudié cela, et Dieu ne attend pour se révéler à lui que lorsque Moshe se débarrasse de ce doute, lorsqu'un homme, son fils, Gershom, qui guérait Iti, guérait Nochria. Juste après, Dieu se révèle à lui. Si tu as étudié cela, okay. Effectivement, Moshe représente aussi, au début de sa vie, cette identité double. Est-ce qu'il est égyptien? Est-ce qu'il est hébreu? C'est le problème de tout à l'heure. La relation à l'universel. Et ça se fixe sur la civilisation du temps, Abraham ou Kazim, Ken, ou bien la spécificité d'Israël. Et c'est pourquoi je signalais cela, avec Moïse, on voit que ça se remet en place. Moïse est descendant d'Israël. Et ici, il y a donc un drame qui s'installe. Alors je crois qu'on peut le décrire comme ça. Il y a une sorte de fléchissement de la confiance dans Sarah, en tant qu'elle est la matrice hébraïque, doublée d'une générosité extraordinaire. Il y a un cas de cette histoire, nous l'avons vécu très souvent dans l'histoire des Juifs chez les nations, qui nous est le plus familier, en tout cas à moi, c'est la société juive en France au temps de l'émancipation. J'essaie de vous décrire ça très rapidement. Lorsque on analyse profondément la situation des Israélites français au temps de l'émancipation et l'accès à la citoyenneté française, on s'aperçoit de quelque chose de très analogue. On a demandé, un des grands rabbins qui a vécu à cette époque, le rabbin Zadok Khan, je ne sais pas si vous en avez parlé, et c'est resté dans les archives, j'ai lu ça dans les archives de l'univers israélite, je ne sais pas si vous connaissez cette revue qui avait sur la guerre. Donc, on lui a demandé, est-ce qu'il y a encore un espoir pour le judaïsme ? Il y a un temps d'assimilation colossal. Les juifs devenaient israélites français, et c'est-à-dire confier à la France et en toute bonne foi en étant sûr l'avenir des croyances juives hébraïques elles-mêmes. Les valeurs des prophètes d'Israël, ça passera par la France. Essayez de vous remettre à cette époque. Vous voyez, l'identité juive en France qui n'a plus confiance dans son propre avenir. On a demandé à Zadok Khan, est-ce qu'il y a un espoir ? Il a répondu, il n'y a pas d'espoir, mais il faut faire comme si. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Les juifs français ont vu dans la France la matrice de réalisation des valeurs des prophètes d'Israël. C'est exactement ce qui se passe là. Est-ce que c'est clair ? Il y a une communauté juive qui remonte à elle-même et qui confie avec une énorme générosité, une bonne foi extraordinaire à une autre société l'avenir des valeurs des prophètes d'Israël. Vous n'avez pas vécu cette époque puisque vous vivez l'époque que vous vivez. Mais essayez par l'imagination de vous remettre à cette époque. Il y a encore des Israélites français en France, qui vivent cela. Et je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'en connaître, de discuter avec eux, mais de ces dignitaires de la communauté juive, comme on dit aujourd'hui, mais qui se considèrent comme israélites, c'est-à-dire des juifs ayant confié à la France l'authenticité des valeurs d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que vous dites là ? J'en ai connu un qui vient de mourir il y a quelques années, qui était un tzaddik. Oh, maman, c'est un tzaddik. Je dirais pas son, après tout, je dirais, c'est un shevar. C'est M. Sommer, j'ai entendu parler de lui. J'ai pas entendu parler de M. Sommer. Bon, tous ses enfants, tous ses petits-enfants sont israéliens. Mais lui, grâce au Néakiba, mais lui était un israélite français en béton armé. Au point, dans son testament, il a fait marquer qu'il ne veut pas être enterré en Eretz Israël parce que le Messie n'est pas encore arrivé, que si jamais il meurt en Eretz Israël, il ne veut pas qu'on ramène son corps, c'est interdit par Shulchan Aruch. Mais que s'il meurt en France, il va être enterré en France. Il est mort en France, et sa famille, le jour même, a pris l'avion pour prendre la Shiva à Jérusalem. Mais pour vous dire à quel point il était israélite français. C'était le gendre et l'élève du grand rabbin Liber, qui était directeur de l'école rabbinique de ce temps-là. Et alors, je vais vous donner un détail. C'était un homme d'une vertu dont il n'a aucune idée. Il s'occupait de charité dans des dimensions extraordinaires. À une époque où il y avait très peu de pratiques juives à Paris, c'était l'adresse pour savoir si on avait besoin de quoi que ce soit. Et le 14 juillet, il descendait, déjà âgé avec Madame Sommer, faire un tour de bal du 14 juillet, parce qu'il était français, avec une kippa sur la tête. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, du profil d'identité que ça fait, un sadique en plus. Et il faisait ça dignement, c'est tout juste, il ne disait pas une bracha. Le 14 juillet, on fait un tour de valse sur les jardins de la rue Lemoine, rue du Cardinal Lemoine. Et alors, métro Les Gobelins, si vous voyez à peu près le quartier. Et alors, pour vous donner cet exemple, vous voyez, une espèce de péripétie qui consiste dans une perte de confiance en soi-même, et cependant, il y a une grande générosité vis-à-vis d'une société haute, et cependant, il s'agit de la promesse. Les valeurs des prophètes, eh bien, ça passe par la France. Il y a un livre qui est apparu par un des dignitaires de l'Alliance israélite universelle à Paris, et qui, je ne le citerai pas, et qui s'appelle « Heureux comme Dieu en France ». Dieu est-il français ? Vous voyez, mais les Israélites français l'ont cru et continuent à le croire. Alors les Américains en Amérique, les Anglais en Angleterre, les Allemands, et si vous saviez les Allemands et la culture allemande avant Hitler, c'est que Dieu a créé les Juifs et l'Allemagne. Et les Juifs de Francfort étaient en mission pour porter les valeurs des prophètes d'Israël aux Allemands, et etc. partout. Voilà, c'est ce qui se passe là. Est-ce que je suis arrivé à vous remettre ça en évidence? Entre-temps, Ishmaël est né. Top. Quelle heure est-il? On n'aura jamais le temps de voir le voir. Je vais vous demander de préparer pour la semaine prochaine, au chapitre 21, le verset qui indique la décision que prend Sarah de séparer Ishmaël de Yitzhak. Vous lirez le chapitre 21, ça suffit, et on prendra ça donc la semaine prochaine. Et il est... vous avez encore 5 minutes, vous avez une
question. Je voulais poser une question.
Oui.
Comment avec la rencontre avec Agar, ils arrivent à vouloir que l'histoire passe par les valeurs de l'Égypte. Quand vous avez dit cette même explication sur les Juifs en Égypte, je pouvais comprendre, dans le contexte de la civilisation, mais Abraham et Sarah face à Agar...
Voilà, il s'agit d'engendrer un type d'homme, fils d'Abraham, et qui sera la suite des toladot, des engendrements, véhicule de la promesse faite à Abraham, et la question est de savoir si cet enfant, cette identité, procédera de la matrice hébraïque Sarah ou de la matrice égyptienne Agar. Comme j'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas complété, la loi d'Israël, nous avons là l'exemple privilégié. L'enfant est l'enfant de sa mère. Si l'enfant d'Abraham est l'enfant de Sarah, c'est Yitzhak. Si l'enfant d'Abraham est l'enfant de Agar, c'est Ishmaël. Il n'y a pas plus différent entre Ishmaël et Yitzhak, que ce soit possible. Parce qu'ils sont apparemment très près, donc très différents. Et ça dépendait de qui? D'Abraham? Pas du tout. Ça dépend de Sarah ou d'Agar. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, lorsque Abraham accepte le conseil de Sarah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Avec cet optimisme de Sarah, je l'adopterai. Et les haramim qu'on va étudier la semaine prochaine, au moment de la séparation entre Ishmaël et Yitzhak, vont mettre en évidence à quel point cette adoption n'a pas réussi. Ishmaël est Ishmaël. Ce n'est qu'à la fin de son histoire qu'il va faire tchouva. Et nous, dommage qu'on n'ait pas une heure maintenant, mais on aura cette heure la semaine prochaine. Et nous étudierons ça très en détail. C'est-à-dire, il y a une cohérence dans l'enseignement du Midrash. C'est pas pour rien qu'en fin de compte, Sarah prend acte que c'était une erreur, et qu'il faut séparer Ishmaël de Yitzhak. Alors qu'au début, dans son optimisme, elle était prête à l'adopter, à en faire le Yitzhak qu'on attend. Et c'est pas possible. Voilà, nous allons suivre ça la semaine prochaine. Ok, Émile.
Tout de même, Abraham est dans le cœur que l'identité d'Abraham, malgré tout, ne sont pas passées dans Ishmaël.
Parce qu'il est encore Abraham.
Il y a un lien entre le fait que Abraham et Sarah aient tenté une différence avec l'Égyptienne et le fait que l'Égypte
soit dans l'Égypte. Bien sûr. C'est à ce moment, c'est là où passe la civilisation du temps. C'est l'humanité que Dieu a fait. Okay. Oui. Tu comprends?
En cet instant, on nous a rappelé qu'il n'y a pas de dialogue entre Ishmaël et Israël.
D'accord.
Vous dites qu'il va y avoir des choix.
Oui, à la fin. Je vous montrerai où. Et ça, c'est très, très, très important, cette remarque. Ishmaël ne veut pas parler à Yitzhak. Vous remarquez que les Arabes ne veulent pas nous parler. Ça continue. C'est la même typologie. Et je terminerai par une citation, c'est dans un commentaire chassid de la Gala de Pessah. Il y a les quatre enfants de la Gala. Et on a posé la question dans quelle famille juive il y a 40 ans comme ça. Un tzadik, un rachar, un tam et un chéno et des harichos. Et ce commentaire explique c'est la famille d'Abraham. Il y a un tzadik, c'est Yitzhak. Il y a un sacrifice à faire, je suis prêt. Ça, c'est Yitzhak. Il y a un rachar, c'est Esav. l'amalie de Roa, le révolté, il ne veut pas, ça ne me concerne pas. Marre d'Azot Lachem. Yantam, c'est Yaakov. Ishtam, Yosef Oalim. Et puis, chez nous, le dernier chose, c'est Ishmael. Il ne sait pas parler. Et alors, on a remarqué une chose. Mais il a une Mishnah qui le concerne, et qui est très importante. Afata et Morlo, qu'il rote à Pessah, et Martirin à Pessah, avec le sort. Pas celui-là. C'est un gros tzadik, c'est rare. C'est-à-dire, tu pourras lui parler au Shemon Ezar Lishol quand il verra la Matzah et le Maror. Quand il saura ce que c'est, alors il comprendra de quoi il s'agit. Ça je reviendrai par là. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand il sera en exil, il saura. Et Atpetahou, c'est extraordinaire. Il y a toute une question dans les Mefarshim. Il aurait dû dire Atpetahou. Pourquoi Atpetahou? Alors, certains commentateurs expliquent que c'est la forme ancienne araméenne de Atas et At, ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Mais pourquoi la garder là? Et si c'est un féminin, At, c'est At Pithilo. Alors, finalement, ça a l'air d'être une blague, mais je ne crois pas que c'est une blague. Il y a eu une seule tentative de parler avec Ishmael à partir de 48, c'était Golda Meir. Elle s'est déguisée en arabe et elle est allée lui parler. Et à Abdallah. Hein? Mais ils se sont énervés parce qu'ils étaient en colère que les Israéliens aient envoyé une femme. Et c'est pourquoi le dialogue s'est rompu. Et depuis, je me rappelle, jusqu'à la fin de la vie de Golda Meir, son dernier interview à la télévision, l'intervieweur demandait, mais vous dites toujours, il faut parler avec eux, mais est-ce qu'ils vous écoutent? Ah non, ils ne nous écoutent pas. Mais vous continuez? Ah oui, on continue. Oui, c'est extraordinaire. Okay. Bon, mettez ça entre parenthèses, mais dans tous les cas, nous avons cette problématique. C'est que Ishmael ne parle pas. Jusqu'au moment où il parle, va nous dire le texte, reconnaître que c'est Yitzhak qui est chez lui en Eretz Israël. Ça, nous allons le voir dans le texte. À ce moment-là, on verra. Okay. Voilà. Si Dieu veut. Et peut-être qu'avant la semaine prochaine, on entendra radio, je ne sais pas quoi, dire « Là, vous êtes chez vous ».